Alors, est-ce qu'il existe une méthode d'Ajahn-Chah? je pense pas qu'il y ait un texte dans les enseignements d'Ajahn-Chah ou d'Ajahn Sumedho qui évoque une méthode particulière. La tradition de forêt telle que la perpétue Ajahn-Chah et ses disciples part sur la pratique d'une attention qui est à chaque instant et notamment dans la pratique du Vinaya, de la règle. Hein. C'est peut-être une caractéristique particulière. Mais je pense pas qu'on puisse parler qu'il y ait une méthode d'Ajahn-Chah particulière. Il n'y a pas une méthode d'Ajahn-Chah comme il y a une méthode Mahasi Sayadaw ou une méthode Goenka. Hein. C'est pas le maître d'Ajahn-Chah, Ajahn Mon, son propre maître à lui-même avait retravaillé sur le Mahasatipatthana Sutta, mais ils n'ont pas donné une orientation particulière. Ils se basent sur ce texte-là, sur la pratique de Sati Sampajano, et il n'y a pas une spécificité particulière qui est mise en avant dans cet enseignement-là. Après, il y a une façon de procéder, d'enseigner peut-être d'Ajahn-Chah, mais pas sur la méthode en tant que telle de développer Sati Sampajano. Je pense pas. Vous me prenez un peu de cours, là, je dois dire. Mais si j'en connais, a priori comme ça, ça me vient pas, donc je pense pas qu'il y en ait une. c'est un peu. Je suis un peu court, là, je dois dire.
Je cherche aussi, mais...
Non, il n'y en a pas. Hein. Y a pas. Après, il y a une façon de procéder d'Ajahn-Chah, de déstabiliser un peu ses auditeurs, de jamais... fallait prendre un petit peu de cours quand ils attendent un enseignement de ne pas leur donner, de les prendre à rousse-poil, etc. Mais avec gentillesse, de les accompagner. Mais il n'y a pas une méthode Ajahn-Chah, à ma connaissance, non. Et c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que d'une certaine manière, c'est un peu ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est les différentes méthodes, justement. Mais c'est vrai que là, je ne pensais pas parler d'Ajahn-Chah en particulier à cause de ça. D'autres questions? Oui.
Satipatthana Sutta.
Oui.
Il y a l'attention sur le citta et puis le dhamma, les dharmas. Oui. Et c'est quoi la différence
Alors, bon, on va parler de Satipatthana Sutta. Hein. Je pensais parler de Sati, et du Satipatthana Sutta. Pourquoi est-ce que je voulais d'abord vous en parler, puis je répondrai à votre question après. Je voulais vous en parler parce que quand on parle aujourd'hui de pratiquer la méditation dans le Theravada ou la mouvance du Theravada, on parle plutôt de la méditation de Vipassana. Hein. Je crois que je vous ai déjà dit, enfin en tout cas je l'ai déjà dit à certains d'entre vous, que Vipassana c'est pas un terme qu'on trouve fréquemment dans le canon. C'est un terme qui est relativement tardif dans le canon et qui désigne plus le résultat d'une pratique qu'une pratique elle-même. Vipassana c'est la vision, passana, la vue, et vie qui distingue, qui fait des distinctions. Donc on pourrait dire une vue analytique. Et quand on enseigne Vipassana aujourd'hui, la plupart du temps, on insiste sur l'attention, et selon des expressions, l'attention pure ou l'attention nue. Et il y a une sorte d'incompatibilité, si je puis dire, entre cette présentation de Vipassana et le terme lui-même, et ce qu'un texte comme le Satipatthana Sutta justement nous enseigne, et ce que toute la tradition du Theravada nous enseigne aussi. Le Satipatthana Sutta, qui est vraiment le texte de référence pour Vipassana, ne présente pas le pratiquant en observation de phénomènes simplement dans l'observation. Il y a une certaine activité mentale qui doit entrer en branle en même temps que cette observation. Et en fait, Sati n'est jamais considéré dans les textes bouddhiques seul. On ne parle jamais de l'attention seule. On parle toujours de l'attention accompagnée. Et donc l'expression qu'on trouve dans les textes, c'est généralement sati sampajjano, qui veut dire l'attention et la compréhension. Et sati est un mouvement de l'esprit qui permet d'une certaine manière de maintenir un objet d'observation fermement devant l'esprit pour que l'esprit puisse en prendre connaissance. Sampajjano, c'est la connaissance profonde. Et en fait, le travail s'effectue plus par Sampajjano que par sati. Sati a plus le rôle de fixer l'objet de façon à ce que l'esprit puisse l'observer. On a l'impression, quand on entend certains enseignements sur Vipassana, qu'il suffirait de regarder ce qui se produit, comme ça se produit, au moment où ça se produit, et de laisser filer. C'est pas ce que demande le Satipatthana Sutta. Si vous prenez juste le tout début, ce qui concerne la respiration, on dit d'observer la respiration et de savoir quand elle est courte, qu'elle est courte. De savoir quand elle est longue, qu'elle est longue. Donc déjà, il y a cette idée de connaître l'objet, mais qui demande à être analysé pour savoir s'il est court ou s'il est long. C'est pas juste observer la respiration comme ça. Si vous devez connaître la respiration comme courte quand elle est courte et longue comme elle est longue, c'est que vous avez déjà une idée de ce que c'est que court et qu'est-ce que c'est que long. C'est aussi bête que ça. Si vous regardez la proposition suivante, on dit qu'on respire, on inspire et on calme. Alors, on calme quoi? Kaya, c'est un terme un peu compliqué. La traduction stricte serait l'ensemble, mais on n'a jamais su, et il y a des interprétations diverses, si c'est l'ensemble de la respiration ou si c'est l'ensemble du corps. Peu importe. Mais encore une fois, vous observez en inspirant, vous calmez. Il y a une expression volontaire qui se manifeste là. Vous inspirez, vous calmez, vous expirez, vous calmez. Ça veut dire que vous intervenez. Ce qui veut dire que, la suite est, vous donneront d'autres exemples. Quand vous observez les différents mouvements, quand vous observez les états de décomposition d'un cadavre, il ne s'agit pas juste de regarder. Il ne s'agit pas juste d'observer. Il y a un processus mental qui accompagne ça. Donc il ne faut pas croire que Vipassana, c'est juste voir les choses passer, les phénomènes se produire, et puis les laisser passer. Alors c'est vrai, il n'y a pas de jugement, au sens de jugement moral. Il n'y a pas de jugement à dire « je le veux et je le refuse ». Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'activité mentale. Et ce n'est pas juste simplement être attentif à ce qui se produit, puisque la simple attention à un phénomène, c'est un autre mot dans le canon pali qui le rend. C'est manosikara. C'est quand l'esprit se pose sur quelque chose, et donc le fait rentrer dans le champ de la conscience, si je puis dire. Sati, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus. C'est pas juste être attentif. Et quand on traduit ça même par attentif, ça pose problème, puisqu'à l'origine, le mot ne veut pas absolument rien avoir avec l'attention, puisque le mot veut dire la mémoire. Donc comment arriver à faire le lien entre cette signification qui est celle du langage courant, en sanskrit comme en pali, smriti en sanskrit, sati en pali, ça veut dire la mémoire. Donc comment est-ce qu'on en est venu à l'utiliser pour désigner une attention? Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le sujet et qui continuent d'écrire encore aujourd'hui sur le sujet. Moi, j'ai trouvé ma solution. Elle vaut ce qu'elle vaut. Quand vous vous souvenez de quelque chose, vous ramenez un événement passé dans l'observation présente. Et donc, il y a effectivement un mouvement. Vous allez chercher quelque chose qui revient qui vient du passé, quelque chose qui a été abandonné, vous le faites présent. Vous le rendez présent à votre esprit. Et lorsque l'on regarde des textes plus précis sur Sati, c'est un peu cette idée qui est là. C'est vraiment d'être présent, avoir un phénomène présent à l'esprit. Donc, une idée de pas simplement le voir, mais le voir avec attention, avec une grande attention, avec une certaine... il faut éviter les mots qui désignent de la durée, il faut éviter des mots qui désignent trop de volonté, mais voilà, ce que je veux dire, c'est pas simplement voir le chose, c'est vraiment réellement être, le rendre le phénomène présent à votre esprit. Et vous avez un autre emploi du mot sati qui est plus proche de mémoire, mais qui est un peu dans le même état d'esprit, c'est anu sati, c'est lorsqu'on se remémore, quand on rumine, on pourrait presque dire, les qualités du Bouddha, les qualités du Dhamma, les qualités du Sangha, les qualités de sa propre pratique de la vertu, de sa propre pratique du don, et des dieux, hein, les différentes vertus des dieux qui sont devenus dieux parce qu'ils avaient eux-mêmes pratiqué auparavant. Et donc là, c'est pareil, cet exercice d'anusati, c'est un exercice d'avoir présent à l'esprit d'observer, d'analyser, de réfléchir sur. Donc tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle de sati et de vipassana, enfin surtout de sati en l'occurrence ici, il ne s'agit pas simplement de dire, ben voilà, il y a quelque chose qui se produit, je le vois se produire et puis je le laisse passer. Ça, c'est pas sati. Ça, c'est manosikara. Donc sati, il y a quelque chose de plus. Et le quelque chose de plus, on peut le voir dans un texte comme Satipatthana Sutta, que donc il y a une activité de l'esprit qui va entrer en branle en accompagnement de sati, qui va faire de sati ce qu'on appelle sama sati, l'attention juste, pas une attention ordinaire, mais une attention correcte, une attention juste, telle qu'elle est préconisée dans l'enseignement bouddhique, et la plupart du temps, c'est effectivement, l'accompagnement, c'est pramya, la connaissance qui va voir le caractère conditionné du phénomène, qui va le décortiquer, si je puis dire, dans sa nature éphémère et conditionnée. Mais vous prenez donc les quatre bases de l'attention, les satipatthana, les bases de l'attention, les fondements de l'attention. Donc généralement, vous connaissez les deux premiers, qui sont l'attention au corps et l'attention au ressenti. Hein. Donc l'attention au corps, généralement, on la résume à l'attention à la respiration, mais il y a aussi l'attention à tous les gestes que l'on fait du corps. On est aussi attentif à la parole quand on parle. Il y a aussi l'attention aux différentes étapes de décomposition d'un cadavre. Tout ça, ça fait partie de l'attention au corps. Et généralement, quand on observe la décomposition d'un cadavre, c'est pas seulement pour voir l'impermanence des phénomènes, même si c'est un des fondements, c'est aussi pour ne plus éprouver de désir sensuel. Donc le sati exercé sur un cadavre n'a pas la simple vocation de voir un cadavre se décomposer. C'est voir un cadavre se décomposer pour mettre fin au désir sensuel de tout corps, à l'attachement au corps. Et puis, comme vous disiez, effectivement, il y a les deux derniers qu'on oublie généralement, qui est l'attention au citta et l'attention au dhamma. Alors, citta, c'est un terme extrêmement vague, très large au départ, qu'on pourrait dire le psychisme. C'est l'esprit, mais vraiment au sens le plus large qui soit. Alors que les dhammas, ce sont les phénomènes qui composent la réalité, et dans ce texte-là, c'est des parties de l'enseignement du Bouddha. C'est des fragments de l'enseignement du Bouddha, c'est des éléments de l'enseignement du Bouddha. C'est pas des éléments de la réalité, c'est des éléments de l'enseignement du Bouddha. Les quatre nobles vérités, par exemple, hein, sont un des dhammas qui peuvent servir de base à l'attention. Donc là aussi, vous vous rendez bien compte, dans un cas comme celui-là, quand vous prenez un extrait d'enseignement comme base de l'attention, si l'attention sati, c'est juste une attention pure, nue, qui observe un phénomène, comment elle va fonctionner par rapport à un enseignement? Qu'est-ce que ça va être dans ce cas-là que sati par rapport à un enseignement? C'est un peu étrange comme objet, hein, si ce n'était que une une simple observation nue sans le jugement. Vous avez une des bases de Sati qui peut-être nous éclaire, parce qu'elle est vraiment fondamentale dans tout l'enseignement bouddhique, on la trouve dès le premier discours du Bouddha, c'est la Sati qui s'exerce sur ce qu'on appelle les quatre types d'états mentaux. Les états mentaux inefficaces qui sont apparus, les états mentaux efficaces qui apparaissent, les états mentaux efficaces qui ne sont pas encore apparus, et les états mentaux efficaces qu'il faut développer. Les bonnes pensées, les mauvaises pensées, si vous voulez. Ce qui va permettre de progresser sur la voie, ou ce qui va vous empêcher de progresser sur la voie. Et lorsque on porte l'attention sur ces phénomènes-là, c'est pour savoir s'ils sont présents dans notre esprit, s'ils sont en train de se manifester, s'ils se sont déjà manifestés, s'ils continuent de se manifester, et dans le cas des mauvais, faire en sorte qu'ils ne se manifestent plus, et s'il s'agit de bons états d'esprit, de faire en sorte qu'ils se reproduisent et qu'ils se perpétuent. Donc l'attention ici, elle est là pour reconnaître, de façon à ce qu'on puisse ensuite intervenir pour supprimer, interrompre ou faire développer, au contraire, ou provoquer. Mais Sati est vraiment ici considéré comme un élément de reconnaissance. Donc là encore, c'est pas juste une attention nue. Il faut qu'il y ait... on peut voir à ce moment-là aussi le double sens de mémoire. C'est-à-dire que pour reconnaître quelque chose, il faut déjà la connaître. Hein? Donc il faut déjà en avoir une idée. Il ne faut pas imaginer que dans le bouddhisme, on vous demande d'en avoir aucune idée. Hein? On vous dit qu'il faut abandonner les mauvaises idées qui vous maintiennent dans le samsara, mais adopter les bonnes idées qui sont celles du Bouddha, qui vous permettent d'en sortir. Donc je veux insister sur le fait que donc Sati n'est pas, l'exercice de Sati, l'entraînement de Sati n'est pas incompatible avec un certain certaines manifestations de la pensée, alors je ne veux pas employer le terme d'intellectuel, mais analytique au moins, analytique. Et c'est un aspect qui est très développé, par exemple, dans le bouddhisme tibétain, cet aspect-là. Mais on aurait l'impression, à l'entendre certains enseignements modernes, qu'il est totalement absent de la pratique de vipassana. C'est faux. Il y est aussi. Oui.
C'est la méditation analytique, alors ?
Mais Sati est, d'une certaine manière, une méditation analytique. Mais pas analytique dans le sens où vous discourez avec vous-même. Il ne s'agit pas de se tenir un discours sur les choses et de commenter les choses et de bavarder sur les choses. Mais il y a une activité mentale d'analyse des phénomènes dans Sati. D'analyse des phénomènes, de reconnaissance des phénomènes. Peut-être le terme serait peut-être mieux de dire reconnaissance pour rappeler cette racine donc, de Sati qui veut dire ce dont on se souvient, la mémoire. Oui.
Mais c'est pendant la méditation ou si c'est dans la vie quotidienne?
Mais c'est dans la méditation, le Satipatthana Sutta. Oui, oui. Mais cette méditation-là, c'est dans la vie quotidienne aussi. Le développement de Sati ne s'effectue pas que dans la posture assise, puisque au tout début du texte, quand il est question de Sati sur le corps, alors j'ai essayé de le trouver, puis j'ai pas une bonne lunette, mais enfin bon. On observe le corps selon bon, le fonctionnement du corps, ce que dit Mme Gérardin, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ça, mais voilà, en allant ou en revenant, on est parfaitement attentif et conscient. Alors, attentif et conscient, la façon dont on traduit Mme Gérardin, c'est Sati Sampajano. Attentif, Sati et Sampajano, conscient, hein, dans la compréhension. Donc, en allant ou en revenant, en regardant devant ou autour de lui, en étendant ou en repliant ses membres, en portant le manteau, le bol à amon, etc., il est parfaitement conscient. En mangeant, en buvant, en mastiquant, en goûtant, en déféquant, en urinant, en marchant, en étant debout, en s'asseyant, en s'endormant, en s'éveillant, en parlant, en se taisant, il est Sati Sampajano. Donc ça n'est pas du tout simplement dans la pratique de l'assise. C'est à tout moment de la journée, à tout instant. Et puis on précise à chaque fois qu'il faut regarder ça intérieurement, extérieurement et intérieurement et extérieurement. C'est toujours la formule qui revient. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là aussi, il y a diverses interprétations. Le plus fréquemment, on dit intérieurement, c'est quand on s'observe soi-même, extérieurement, quand on observe les autres. Donc si vous observez votre respiration, et vous pouvez aussi observer la respiration des autres, et voir si elle est courte ou si elle est longue. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus varié aussi que ce qu'on imagine généralement. Hein? Alors, mon imprimante ne fonctionne plus, donc malheureusement, j'avais un résumé où j'avais juste les différents intitulés, mais c'est vous avez une quarantaine, une cinquantaine d'objets d'observation différents, et la seule chose qui leur est de commun, c'est justement qu'ils servent de fondement à sati, de base de sati, que sati peut s'exercer à leur égard, à leur rencontre, je ne sais pas comment dire, hein, les prendre comme objet. Et encore une fois, là aussi, sati prend pour objet quelque chose. On est dans un rapport de sujet à objet. Hein. Il s'agit pas, on n'est pas dans la non-dualité. Hein. Il ne s'agit pas de tomber dans une sorte de grand tout, de panthéisme, je ne sais quoi. Non, non. Vous êtes en train d'observer quelque chose. Il y a bien un esprit qui observe un objet. Et qui va l'observer. L'observer, l'analyser sans le juger, ou... qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Excusez-moi, mais je suis très fatigué. Et je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Le reconnaître, mais l'analyser. Il y a un travail de l'esprit quand même dans sati. Hein. Ce n'est pas juste l'observation, il y a un travail.
On n'est pas passif.
On n'est pas passif, on est actif, tout à fait. Hein. Et il ne s'agit pas d'être simplement dans une activité d'une observation nue. Dans les textes récents là, que j'ai lus, ça c'est un terme que vous retrouvez beaucoup utilisé aujourd'hui dans ce qu'on appelle MBSR, la méditation de mindfulness, c'est comme ça qu'ils traduisent sati, utilisée pour la réduction du stress. Et ils emploient cette expression de attention nue, ou de perception nue, etc. C'est une expression qui a été employée par Nyanatiloka Thera, qui était un Allemand, il y a quelques décennies de cela, et justement dans son commentaire du Satipatthana Sutta. Et il regrettait lui-même qu'on mette l'accent sur cette expression qu'il avait employée pour désigner un aspect de sati. Et les gens se sont focalisés là-dessus. Et c'est pas du tout ce qu'il voulait dire dans son commentaire du Satipatthana, et ça va à l'encontre de la plupart des commentaires du Theravada, de la tradition theravadine sur ce qu'est sati. Donc il y a vraiment une activité, effectivement, de l'esprit dans l'expression de sati, dans la pratique de sati, dans l'exercice de sati. Donc vous avez des... Comment dire? Un bhikkhu en allant sait je vais, en étant debout il sait je suis debout, en étant assis il sait je suis assis. C'est-à-dire qu'il y a bien effectivement là une reconnaissance d'une posture. Comment voulez-vous être attentif à une posture sans qu'il y ait une activité mentale? Il n'y a pas de reconnaissance de la différence des différentes postures. Or ce qui est précisé là, c'est bien justement de distinguer les postures. Donc je pense que ça va rendre dubitatif un certain nombre de personnes, mais autre pratique de sati, la décomposition du corps en cheveux, poils, ongles, dents, peau, chair, tendons, os, moelle, reins, cœur, foie, plèvre, rate, poumons, intestin, mésentère, estomac, excréments, bile, phlegme, pu, sang, sueur, graisse, larmes, soin, salive, mucus, synovie et urine. C'est fait pour. C'est justement fait pour. C'est pour couper toute envie d'attachement au corps, tout désir du corps. Mais vous vous rendez bien compte que si l'on doit scanner son corps avec sati, du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds, en essayant de percevoir, de reconnaître ces différents éléments, vous faites marcher votre imagination. Comment voulez-vous reconnaître votre foi sans imagination? Comment voulez-vous reconnaître le pus, l'urine, la synovie? Hein? Allez reconnaître la synovie en étant simplement dans une pure attention aux phénomènes qui se produisent. C'est absolument impossible. Donc c'est bien qu'il y a là une activité mentale d'imagination, où vous êtes en train de scanner votre corps, vous passez par-delà la peau, vous voyez l'os, et puis vous voyez le cerveau, puis vous voyez les vaisseaux sanguins, etc., etc. Et c'est un exercice de sati.
Oui. Ça, est-ce que c'est dans le texte de...
C'est dans le Sati Sapatana Sutta.
Ou c'est dans le texte.
C'est dans la première partie.
Anapana Sati.
Non, c'est pas Anapana. C'est le Sati Patana. Le Anapana Sati Sutta, c'est juste sur la respiration. Là, je parle du Sati Patana Sutta, qui développe. Là, ce que je viens de vous dire, c'est juste dans l'exercice de l'attention au corps. Après, vous avez l'exercice de l'attention.
Il y a 10 éléments.
Non, là, il y en a plus que. Il y en a plein. Il doit y avoir une quarantaine en tout, dans l'ensemble du texte. Donc, dans la partie consacrée au corps, qui est la première, vous avez plusieurs aspects de la respiration. Hein? Dans la respiration, le tout début, c'est simplement observer j'aspire lentement, j'expire lentement. J'aspire rapidement, j'expire rapidement. Après, ressentant tout le corps, j'aspire, ressentant tout le corps, j'expire. Alors là aussi, très nombreux commentaires pour savoir qu'est-ce que c'est que ce corps, ce kaya. Kaya, ça veut dire l'ensemble. Donc est-ce que ça veut dire l'ensemble de la respiration ou l'ensemble du corps? Il y a deux traditions. La tradition officielle du Theravada, représentée par Bouddha Gosa, dit que kaya se rapporte à la respiration simplement. C'est-à-dire qu'il faut voir le début, le milieu, la fin de la respiration et l'arrêt qu'il y a avant le nouveau début de la respiration suivante. Dans une autre tradition d'un autre monastère singhalais, qui a donné lieu à un autre texte que le Visuddhi Magga, qui s'appelle le Vimutti Magga, qui nous a été enseigné récemment par un moine singhalais, on dit qu'il faut voir la respiration parcourir le corps. Donc vous imaginez faire un effort d'imagination ou de ressenti de l'air qui se diffuse à l'intérieur de tout le corps. Et ça, dans la tradition stricte du Theravada, du Mahavihara, on refuse cette interprétation-là. Mais c'était celle qui était admise par l'Abhayagiri Vihara, l'autre monastère de Ceylan, hein, qui est concurrent, donc qui n'est pas du Theravada pur. Et ça, vous retrouvez cet entraînement, ce type d'entraînement d'observation de la respiration dans le corps, dans la méthode Goenka. Oui.
Je me souviens effectivement que dans un cours, vous nous aviez dit que chez les Tibétains, l'aspect analytique en Vipassana était plus développé.
Dans l'aspect raisonnement.
Est-ce que vous pourriez juste nous donner un exemple, même si votre but ici, ce n'est pas de nous enseigner la tradition tibétaine,
mais... Réfléchir à la précieuse existence humaine. Ça fait partie des sujets qu'on peut aborder dans la méditation de Vipassana. Donc, il me semble bien que ça fait partie de ces thèmes-là. Donc là, c'est vraiment de la réflexion intellectuelle. Là, c'est de la méditation au sens chrétien du terme, au sens originel du terme.
Et c'est considéré comme vipassana.
Et c'est considéré comme une pratique de vipassana. Ouais. Après, vous avez donc les différentes attitudes du corps que j'ai évoquées. Vous avez donc toutes les activités, pas seulement les postures, mais les activités. Donc c'est tout ce que je disais quand on marche, quand on parle, quand on bouge, quand on s'assoit, quand on urine, etc. Vous avez ensuite le scan dans les différents éléments. Ensuite, vous avez la décomposition du corps dans les différents éléments, terre, air, eau et feu. Hein? Donc je vous rappelle... ce qu'on appelle la terre, c'est en fait l'aspect masse, solide. Donc vous pouvez être attentif à l'aspect terre du corps lorsque vous êtes assis, à ressentir la pression que votre corps exerce à différents points de votre corps sur le sol. C'est une activité de sati, c'est une pratique de sati. Moi je le cite parfois pour les débutants quand on est en station debout. Donc c'est un beau moyen d'étudier la plante des pieds, au niveau de la plante des pieds, l'élémentaire, justement, hein, comment on ressent la pression et les variations de cette pression, hein, puisque cette pression est toujours impermanente. Bon, après, lorsque vous faites l'élément feu, c'est la chaleur, la température de votre corps. Quand c'est l'élément air, c'est la mobilité, le mouvement. Et quand c'est l'élément eau, c'est les fluides, c'est le liquide. Après, vous avez donc les 13 étapes ou les 12 étapes de décomposition d'un cadavre. Je passe, c'est pas fait pour tout le monde. Et ça, c'est la première partie donc qui concerne le corps. Sati, qui concerne le corps. Après, vous avez l'observation des ressentis, les vedanas. Donc là, c'est relativement simple. C'est être attentif à ces réactions d'agrément, de désagrément, ou de ni agrément ni désagrément. Donc état neutre. Et c'est le paragraphe le plus court, la présentation le plus court, l'exercice le plus rapidement présenté, puisqu'il s'agit uniquement de ça. Après, il y a selon qu'elle est physique ou psychique. Vous avez les deux aspects. Ressenti agréable ou désagréable vis-à-vis des sensations corporelles, et aussi vis-à-vis du psychisme, des idées, des pensées qui vous traversent l'esprit. Mais il n'y a que ça. Voilà. C'est aussi rapide que ça. Ensuite, vous avez donc Citta. Citta va permettre d'analyser l'esprit, et là je prends exprès le terme d'analyser, pour voir s'il est pourvu ou non d'un certain nombre de qualités et de défauts. Donc le premier paragraphe, est-ce que j'ai un esprit pourvu de passion ou dépourvu de passion, d'avidité ? Est-ce que j'ai un esprit pourvu d'aversion ou dépourvu d'aversion ? Pourvu d'égarement ou dépourvu d'égarement ? Est-ce que j'ai une pensée qui est dans un état de recueillement ou qui au contraire est dans un état de trouble ? Est-ce que j'ai une pensée qui est pourvue de grandeur ou au contraire de petitesse ? Bon, grandeur, il faut le prendre au sens d'espace. Est-ce que j'ai une pensée qui est inférieure ou supérieure ? Concentrée ou distraite ? Libérée ou non libérée ? Vous voyez bien, ce n'est pas juste une observation nue. Il s'agit là d'une analyse, encore une fois. Alors, pas jugeante. Pas jugeante. Même quand on observe les ressentis, il ne s'agit pas de dire « je ne veux pas avoir un ressenti désagréable ». Il s'agit de constater que le ressenti est désagréable. Là, il ne s'agit pas de regretter que ma pensée n'est pas libérée, mais il s'agit de voir si je suis dans un état d'esprit de pensée libérée ou de pensée non libérée. C'est important si on veut faire des progrès. Si on ne veut pas faire de progrès, ce n'est pas la peine de faire ça. Mais si on veut faire des progrès, il est bien évident qu'il faut savoir où on en est. Et comment savoir si on en est ? Si ce n'est en analysant la place, la présence ou l'absence d'états mentaux positifs ou négatifs. Puisque tout le chemin consiste à justement éliminer les états mentaux négatifs et à développer les états mentaux positifs. Si on n'est pas capable de les reconnaître et de savoir si on les a ou si on ne les a pas, on ne sera pas en mesure de ne pas les reproduire ou au contraire de les développer. Après quoi nous avons, est-ce que j'ai, donc les cinq entraves, les cinq obstacles, donc ces cinq obstacles sont généralement ceux qu'on essaye d'éliminer avant de pratiquer l'assise, que ce soit pour pratiquer samatha ou que ce soit pour pratiquer plus ou plus profondément vipassana. Donc les cinq obstacles, c'est les trois poisons, c'est l'avidité et l'aversion, c'est la paresse et la somnolence, l'agitation et l'excitation, et le doute. Donc là encore, normalement, on ne devrait pas s'asseoir pour pratiquer quelque forme de développement de l'esprit que ce soit, avant d'avoir éliminé ces cinq obstacles. Parce que si ces cinq obstacles sont présents, votre entraînement derrière, il ne fonctionnera pas correctement. Or, Sati, ici, permet de déterminer justement si vous avez dans l'esprit ces obstacles ou pas, et donc de déterminer si vous êtes en mesure de progresser dans votre pratique. Il est bien conseillé aux pratiquants, par exemple, de ne jamais méditer après un repas sans avoir fait une sieste. Parce que sinon, il y aura de la somnolence. je n'insiste pas, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc le rôle de Sati est de reconnaître si ces différents obstacles sont présents ou pas dans l'esprit. Reconnaître. Encore faut-il les connaître. D'où l'intérêt de l'apprentissage par cœur de ces formules, comme normalement tout bon pratiquant devrait le faire. Qu'est-ce qu'il y a encore après ? Alors après, on va passer aux objets mentaux. Les objets mentaux, donc, qui sont les dhammas. Vous avez...
Et c'est les enseignements ou les dhammas ?
Alors, objets mentaux, les objets mentaux, c'est ce que Raman Vijayaratna traduit du mot dhamma. Mais après, il va y avoir une précision. Qu'est-ce que c'est que ces dhammas ? Donc ça peut être déjà savoir distinguer ce qui relève du physique de ce qui relève du psychique, de la forme ou de la pensée, hein, et de ce qui, de fait qu'ils sont apparus ou qu'ils disparaissent. Donc c'est l'apparition et disparition des phénomènes psychiques et des phénomènes physiques. Ça fait partie de l'observation des dhammas. Vous avez ensuite les objets en fonction des différentes sphères sensorielles. Donc connaître les objets, les facultés sensorielles et les consciences qui manifestent au moment du contact de l'objet avec la faculté. Tout ça fait partie de l'entraînement sur Dhamma. Donc c'est très vaste, hein, l'objet de Dhamma, en fait. Après, vous avez l'observation de la présence ou de l'absence des sept facteurs d'éveil. Donc c'est intéressant, c'est que Sati va s'exercer sur elle-même, puisque Sati fait partie des sept facteurs d'éveil. Et après, vous avez aussi, donc je ne vais pas tout prendre non plus, hein, tout détailler, et vous avez aussi l'observation par Sati des quatre nobles vérités, mais c'est chaque mot des quatre nobles vérités. Hein, chaque expression des quatre nobles vérités. Donc quand vous avez dans la première noble vérité, la naissance est dukkha, la vieillesse est dukkha, la mort est dukkha, le chagrin, les lamentations, les douleurs, les peines, les désespoirs sont dukkha, chaque mot, il va y avoir un travail de reconnaissance de qu'est-ce que c'est que naissance, qu'est-ce que c'est que dukkha, qu'est-ce que c'est que vieillesse, qu'est-ce que c'est que vieillesse en tant que dukkha, etc., etc. Pas encore une fois dans le discours, dans le commentaire, mais dans la compréhension de ce qu'est en réalité la naissance en tant que dukkha. À essayer d'expérimenter ce qu'est la naissance en tant que dukkha, ce qu'est la vieillesse en tant que dukkha. Donc, il ne s'agit pas de bavarder sur la naissance et de se dire « Ah bah oui, la naissance, elle est dukkha parce que les enfants crient quand ils naissent. » Non, ce n'est pas ça. C'est d'expérimenter dans le cadre de votre pratique même de l'attention, de sati, ce qui apparaît, ce qui naît, le moi qui apparaît comme étant un élément insatisfaisant, d'insatisfaction. Reconnaître l'insatisfaction dans la naissance du moi. On est dans un stade là déjà un peu complexe, un peu élevé. Et bon, je veux pas rentrer, il y aurait de quoi discuter pendant quelques années, hein, sur ce texte-là. C'est un texte qui a donné lieu à de très nombreux commentaires dans toutes les traditions, pas seulement la Théravadine, et puis au sein de la Théravadine, il y a eu plusieurs... type, encore aujourd'hui, il y a différents types d'interprétations, mais ce qui me paraissait important de vous dire, c'est encore une fois d'insister, ce que j'ai fait aussi dans le courant de l'année, en vous parlant du don, en vous parlant des préceptes, en vous parlant un peu des jhanas, de metta, etc., c'est de vous montrer qu'il ne faut pas avoir une vision étroite de la pratique bouddhique. Hein? On a tendance à réduire la pratique bouddhique à très peu de choses, et souvent en contradiction d'ailleurs avec les textes. Mais si vous regardez l'intégralité de ces textes, la multiplicité, la variété de ces textes, ils présentent une variété de pratiques, mais qu'il n'y a pas de spécialisation, si je puis dire. Ce sont des pratiques à mettre en œuvre. Et toutes sont utiles. Il ne faut pas s'arrêter à une seule. Hein? La discipline est indispensable pour le calme, qui est indispensable pour l'attention. Mais il y a plusieurs formes de discipline, il y a plusieurs formes de façons d'obtenir le calme, et il y a de très nombreuses façons de développer l'attention, ou la reconnaissance, ou la présence d'esprit, comme vous voulez l'appeler. Alors, dans certains cas, vous avez, par exemple, pour les exercices de calme, ce qu'on appelle le shamatha, il y a des exercices dont on dit qu'ils sont plus spécialement destinés à des gens qui sont de tendance avide. Puis il y en a d'autres qui sont mieux pour ceux qui ont une tendance plus forte à l'aversion. Et puis il y en a d'autres qui sont mieux pour des personnes qui sont plus dans la confusion. Alors, donc il y a certains de ces entraînements, certaines de ces techniques, de ces pratiques, qui sont de meilleurs effets dans certains cas. Par exemple, la contemplation des cadavres, on considère qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Mais en revanche, que c'est le moyen le plus radical pour celui qui est complètement dominé par le désir sensuel. Et puis, il y en a d'autres dont on sait qu'ils sont bons pour tout le monde. La respiration. L'observation de la respiration, ça, ça marche pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on se focalise un peu sur la respiration. Mais il est dommage de se focaliser, parce qu'il y a d'autres choses à côté.
Est-ce que la méditation par la visualisation est pratiquée dans le corps?
Bah, là, dans ce que je vous ai donné tout à l'heure sur la décomposition du corps,
non, pour le visualisation,
c'est une certaine de visualisation, puisqu'on doit voir l'intérieur de son corps. Mais il n'y a pas de visualisation, comme dans le bouddhisme tibétain, dans le bouddhisme tantrique, de ce que pourrait être cet univers tel que le voit un Bouddha. Ça, non.
Il n'a pas illuminé d'une flamme, un truc comme ça.
Alors, ce qui est possible visualiser une flamme, non. Mais lorsque vous travaillez pour les jhanas, hein, vous êtes dans l'observation d'un objet qui peut être une flamme, ça peut être aussi un cercle de couleurs, ça peut être plein de choses, et le processus doit vous permettre, si vous vous concentrez sur cette flamme, de la voir même les yeux fermés. Donc je ne sais pas si c'est ça que vous entendez, mais ça va être d'une certaine manière, même les yeux fermés, vous visualisez la flamme. Et c'est cette visualisation de la flamme, yeux ouverts, yeux fermés, et même quand vous vous déplacez, après avoir quitté l'endroit où vous étiez devant la flamme, vous vous déplacez et vous continuez de voir cette flamme, c'est ça qui va permettre de provoquer dans l'esprit l'apparition du signe qui va remplacer la flamme, et sur lequel ensuite va porter votre observation pendant les jhanas. Donc d'une certaine manière, on peut dire que c'est une visualisation, mais c'est parce qu'il y a un effort peut-être d'imagination dans le fait de pouvoir voir la flamme les yeux fermés. Ou quand on a une observation d'un cercle de couleurs, d'un cercle de terre, ou d'un cercle d'eau, etc., il faut effectivement, l'idée c'est que l'esprit soit focalisé sur l'objet, et qu'à chaque instant, l'esprit reproduise l'objet. C'est en ça que les jhanas sont une méditation qui ne permet pas d'atteindre l'éveil, parce que vous êtes dans une activité où vous reproduisez volontairement, intentionnellement, un objet fictif, et vous n'êtes pas dans l'observation de la réalité telle qu'elle est. Et là, dans ce cas-là, oui, effectivement, on peut considérer ça comme un processus de visualisation. Est-ce que ça répond à votre question?
Oui.
D'accord. Oui.
Et alors, là, dans ces traditions que vous venez de nous présenter, là...
Les traditions, lesquelles?
Non, enfin, la tradition de Theravadine...
Oui. Différentes pratiques.
Oui, oui. Le méditant, il va, avant de commencer une session, il va se dire, je vais pratiquer le Satipatthana Sutta dans sa composante Vedana, ou
tout à fait.
Il le détermine à l'avance,
oui.
Et après il se focalise sur ce qu'il a choisi.
Traditionnellement, dans un enseignement traditionnel, vous n'avez pas accès à tout et n'importe quoi, vous n'avez accès qu'à ce que votre instructeur vous donne. Et donc votre instructeur vous enseigne un enseignement du Bouddha que vous apprenez par cœur et que vous récitez pendant la pratique. Et c'est votre instructeur qui vous dit ensuite, tu vas prendre telle autre pratique, etc. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Évidemment, maintenant, les choses ont un petit peu changé parce qu'on a l'ère moderne, et puis qu'il y a des traditions qui sont mises en place différemment, mais il faut bien se rendre compte que même à Janchar, ce sont des traditions récentes. La tradition des moines de forêt d'Ajahn-Chah, elle est apparue à la fin du 19e siècle, après avoir disparu pendant des siècles. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition de forêt telle qu'elle est transmise par Ajahn-Chah et ses disciples, peut-être qu'elle n'a strictement rien à voir avec la tradition des moines de forêt telle qu'elle était au 14e siècle ou au 3e siècle. Là, c'est la tradition de forêt telle qu'elle a été refondée par Ajahn Mom, qui était le maître d'Ajahn Chah. Mais peut-être que les prédécesseurs, il y a plusieurs siècles auparavant, ne fonctionnaient pas du tout de cette manière-là. Hein? Donc méfiez-vous, on n'a aujourd'hui que des méthodes modernes. Hein? Après, elles sont plus ou moins en rapport avec une tradition non interrompue. En l'occurrence, celle des moines de forêt a été plusieurs fois interrompue. Il y en a d'autres qui sont moins interrompues. D'une certaine manière, Goenka enseigne une tradition qui est beaucoup plus linéaire que celle d'Ajahn Chah. Mais le problème de Goenka, c'est que c'est une tradition qui n'est pas de Theravadine d'origine. Bien que ça se perpétue au sein du Theravada aujourd'hui, elle n'est pas d'origine Theravadine dans les siècles passés. Elle vient d'une autre école indienne. Sarvastivadine. Sarvastivadine, d'après les derniers travaux les plus récents. Donc pas Theravadine au sens strict, elle est différente de ce qu'on trouve dans le Visuddhimagga. Elle est même en contradiction avec des choses qu'on trouve dans le Visuddhimagga. Donc là aussi, il faut voir qu'il y a quand vous lisez un texte comme celui de Jacques Canfield, qui est bien, qui s'appelle Dharma vivant, il vous présente une douzaine d'instructeurs contemporains, dont quelques-uns maintenant sont morts, de Thaïlande et de Birmanie, il y a des pratiques et des méthodes extrêmement différentes. En Birmanie, vous avez toute une série de lignées qui se fondent complètement sur l'Abhidharma. Mais même au sein de cette tradition qui fait une relation absolue entre la pratique en méditation et l'étude de l'Abhidharma, il y a ceux qui vont dire qu'il faut d'abord étudier l'Abhidharma pour pouvoir pratiquer, et puis il y a ceux qui vous diront, non, vous n'étudierez l'Abhidharma que quand vous aurez expérimenté dans la méditation. Et l'Abhidharma, l'étude de l'Abhidharma sert à vérifier ce que vous avez. Alors que les autres disent, mais oui, si vous voulez pratiquer, il faut d'abord savoir où vous allez. Donc il faut d'abord lire la carte. Donc, voilà. Ajahn Chah, l'Abhidharma, il n'en est absolument pas question. Hein. Mais dans certaines traditions birmanes, même qui se réclament de Mahasi Sayadaw, pour certains, l'Abhidharma est absolument essentiel. Donc il y a beaucoup de lignées, il y a beaucoup de techniques, et il y en a certains qui se focalisent sur un certain type de pratique, et puis il y en a d'autres qui mettent plusieurs. Goenka propose la pratique de Sati sur la respiration et les ressentis. Je connais personne aujourd'hui qui le propose sur les Chittas et les Dhammas.
Qui? L'icône de Vénérable, comment il s'appelle, Yama, Xiaoming.
Mais il a des...
Il est disciple de Mahasi.
Mais il y a des enseignements en France de cette lignée-là?
En France, non.
Voilà, ben, c'est pour ça que je ne connais pas. Donc, je ne connais pas en France de gens qui proposent ça. Donc, en Asie, oui. En Birmanie, en Thaïlande, il y en a certainement. Mais dans ce qu'on trouve ici, en France, non. En France ou en Belgique, enfin en Europe occidentale, quoi. Je ne connais aucun qui propose... de développer Sati sur Chitta et sur Dhamma.
Et en Birmanie, c'était ininterrompu ou pas, les traditions? Ininterrompu, la transmission?
Il y a des traditions ininterrompues dans le milieu monastique, oui.
D'accord. Il n'y a pas de l'équivalent de pratique de la forêt en Birmanie?
Telle qu'elle est développée en Thaïlande, je pense pas. Non, c'est assez propre à la Thaïlande. Mais à l'origine, c'était des mouvements qu'on voyait même dans l'histoire du bouddhisme à Ceylan, etc. C'est un mouvement dont on n'arrive pas à être sûr qu'il a été ininterrompu. On a l'impression que c'est une sorte de mouvement qui réapparaît à chaque fois qu'il y a des... que le sangha monastique dérive un peu trop, une sorte de réforme pour de retour aux sources qui prône la démarche de la forêt. La première mention qu'on a de la tradition, d'une tradition de forêt, c'est au moment où le canon est mis par écrit, à une période où le sangha est en train de se détruire complètement, on a peur donc de ne plus avoir assez de récitants pour perpétuer la connaissance du canon, et on décide de le mettre par écrit. Et l'assemblée conciliaire qui décide de mettre par écrit décide qu'il est plus important d'étudier, de préserver, de diffuser l'écrit que de le mettre en pratique. Et donc il y a un groupe qui s'appelle les Pantsukulika qui sont en désaccord avec ça, qui disent nous on veut privilégier la pratique et non pas l'étude et la préservation. Et donc c'est la première fois qu'il y a ce mouvement qu'on appelle désormais les moines de forêt. Donc les araignées racines. Mais voilà, donc c'est toujours un mouvement de protestation, d'une certaine manière, contre ce qu'ils considèrent comme une dérive trop érudite, trop intellectuelle de l'autre morceau, l'autre partie du Sangha des Bhikkhus. Mais c'est vrai que ça a toujours été, au sein du Theravada, une école minoritaire et réactive, sinon réactionnaire. Réactive, en tout cas. La majorité du Theravada, c'est d'abord l'étude et la pratique de la discipline, beaucoup plus que la pratique de l'assise et de la méditation.
Peut-être c'est aussi parce que c'est plus difficile.
Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. C'est considéré comme étant réservé à une petite élite, contrairement à ce que la façon dont on le diffuse ici en Occident. C'est ce que je me tue à dire, à rappeler. Mais voilà, donc si on voulait effectivement suivre les conseils du Satipatthana Sutta, si on considère que le Satipatthana Sutta, c'est la pratique de Vipassana telle que la plupart d'entre vous souhaitez la pratiquer, eh bien voilà ce qui est dit au début. Un bhikkhu... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Un bhikkhu, étant allé dans la forêt ou au pied d'un arbre ou dans un bâtiment vide, s'assied, les jambes croisées, le corps droit, son attention fixée devant lui, et il aspire, il respire, etc. Donc déjà, il faudrait... Mais il y avait autre chose avant. Voilà, c'est ça. Un bhikkhu demeure énergique, compréhensif, attentif, en ayant d'abord rejeté les désirs et les soucis concernant le monde. Donc ça, c'est une formule... un peu toute faite, qui dit déjà que pour se lancer dans cette pratique-là, il faut avoir renoncé au monde. Donc au désir sensuel et à tout ce qui s'ensuit. Donc exercer sati par rapport à vous-même, pour savoir si vous avez déjà renoncé au monde, hein, avant de vous lancer dans cette pratique-là. Mais il n'y a pas le petit paragraphe auquel je faisais allusion tout à l'heure sur l'absence des cinq obstacles qui généralement est plus concerne plus la pratique des jhanas en l'occurrence. Mais bon. Mais normalement, voilà, ce genre de pratique d'abord est rarement enseigné au maître de maison, sauf s'il pratique ce qu'on appelle la brahmacharya. C'est-à-dire une vie qui est celle d'une sorte de bhikkhu dans le monde. Donc le renoncement à la toute sexualité, le renoncement à tous les plaisirs sensuels et ce genre de choses. Donc bien sûr qu'on dit que la pratique est possible quand on reste dans le monde, mais c'est un monde qui ne ressemble plus beaucoup au monde. Parce que si on reste dans le monde, on est empêtré dans les liens du monde et on n'aura jamais la disponibilité d'esprit pour y travailler réellement. Puisque ça doit se faire à chaque instant de la journée.
Mais on ne développe pas une forme d'égocentrisme en suivant vraiment l'enseignement et en réfléchissant son comportement continuellement.
Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de travailler sur cet ego, puisque c'est cet ego qui pose problème? Si vous n'êtes pas égocentré, vous ne pourrez jamais voir que cet ego n'est que votre construction. C'est bien beau. L'altruisme n'est pas conseillé dans le bouddhisme. Hein. Si c'est un désintérêt de soi. On vous dit toujours qu'il faut se préoccuper de soi et d'autrui. Il faut se préoccuper de soi parce que le problème de votre activité erronée dans le monde, c'est cette perception du soi qui est erronée. Si vous ne vous intéressez pas à votre soi, comment voulez-vous résoudre le problème ? Donc il faut être égocentré. Il ne faut pas être égocentrique, mais dans un sens d'exclusive. Mais bien sûr qu'il faut s'intéresser à son ego. Mais s'intéresser, encore une fois, pas pour le caresser dans le sens du poil, hein, pour l'analyser, pour comprendre comment il se manifeste et d'où il vient. Puisque finalement, qu'est-ce que c'est que la pratique bouddhique? C'est arriver à comprendre que ce moi n'existe que parce que je le construis, et que c'est à partir de ce moi que je construis que je juge toutes mes activités, tous mes sentiments, toutes mes opinions, tous mes désirs, etc. Et que c'est parce que cette base-là est non réelle, mais construite, que tous ces désirs qui sont fondés sur lui ne peuvent qu'être insatisfaits. Parce qu'ils sont pas, le moi n'est pas dans la réalité. Il est dans l'imagination, il est dans la construction mentale. Donc si vous n'observez pas, vous ne pouvez pas vous rendre compte de tout ça et vous ne pouvez pas le dépasser. C'est pas en regardant les autres uniquement que vous arriverez à sauver les choses. Hein. Il faut passer par cette observation de soi. Et quand on vous demande d'observer intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire que vous devez observer les autres avec compassion, avec empathie, c'est-à-dire comprendre que les autres sont exactement dans la même merde que vous. C'est pas pour vous distraire de vous, c'est pour apprendre aussi des autres ce que vous avez à apprendre de vous, et à constater que dans les autres, ça se passe pas différemment de ce qui se passe en vous. Mais voilà, vous n'êtes pas là pour vous évader de vous en vous occupant des autres. Vous êtes là pour vérifier chez les autres ce qui se passe chez vous, et finalement arriver à cette équanimité, ce sentiment d'équitabilité entre tous les êtres, c'est que finalement, nous sommes tous dans la même merde.
En fait, ça rend plus tolérant quand on commence à...
Tolérant ?
Ah, oui.
Alors, il faut se méfier du mot tolérant.
Quand on tolère
quelqu'un, c'est que généralement on a envie qu'il soit pas là, mais on le tolère. Hein? Vous voyez ce que c'est?
Non,
ça. Donc, équanime, équanime, équitable. Équanime, équitable, j'aime bien parce que c'est la racine équi, hein, qui est, voilà, c'est l'équivalent, équitabilité. Je préfère la tolérance. Tolérance, le mot a une connotation morale qui n'est pas forcément toujours sympathique. Mais voir les autres de façon équitable et avec équité et de façon équivalente. Équivalente, qui vaut la même chose. On vaut tous la même chose. Lorsque vous tolérez quelqu'un, c'est que vous le considérez comme inférieur. Donc voilà, la tolérance, c'est pas une vraie vertu. Hein. C'est une attitude, mais c'est pas une vertu, de ce point de vue-là. Ça vous laisse sans voix? Non.
Mais le texte Satipatthana a été enseigné dans l'état de guru à tout le monde, pas seulement aux moines, n'est-ce pas? Donc, c'est pas de l'élitisme. Le Bouddha a enseigné dans l'état de guru à tout le monde.
Une fois le bienheureux séjournait parmi les Kurus dans une bourgade des Kurus nommée Kamasadamma, au pays des Kurus, et il s'adressa au Bhikkhu en disant « Ô Bhikkhu, oui vénéré, voici la voie sûre au Bhikkhu qui conduit à la purification des êtres vivants, etc. 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 » Au Bhikkhu,
pas... que les pratiquants sont des...
Alors, quelle est la signification exacte du terme de Bhikkhu? On peut en parler aussi pendant 3 heures. Bhikkhu, à l'origine, ne désigne pas un statut social, mais plutôt un état d'esprit spirituel. Le problème, c'est que dans tous les textes qu'on a là, qui sont des textes, disons, de période classique, ils sont plutôt employés dans un sens institutionnel. Les bhikkhus, c'est ceux qui ont quitté le foyer pour la vie sans foyer. Dans les textes archaïques, on peut se poser la question... Est-ce que ça inclut des maîtres de maison ou seulement des ascètes? Là, on peut avoir le choix. Maintenant, on ne saura jamais à qui il l'a dit. Tous les textes bouddhiques sont des apocryphes. Hein. Ils ont été fixés à une certaine époque dans cette forme-là. À qui s'adresse-t-il? J'en sais rien. Mais en tout cas, à quelqu'un qui a suffisamment de temps pour aller s'asseoir dans une maison vide ou dans un espace vide ou sous un arbre, etc. A priori, c'est pas un marchand qui doit s'occuper de sa boutique. C'est tout ce que je peux vous dire.
Mais après le passage du Bouddha, les habitants de Kuru apprenaient par cœur, et puis même les enfants ont récité par cœur le texte.
Donc, ça n'empêche pas. ça n'empêche pas, mais c'est...
Je trouve que il veut s'adresser à tout le monde.
Il veut s'adresser à tous ceux qui veulent se donner les moyens de pouvoir le pratiquer.
Oui.
Alors ça peut être un enfant, comme ça peut être un adulte, et puis c'est pas parce qu'on sera un adulte qu'on sera prêt à faire les efforts qu'il faut pour pouvoir pratiquer. Donc bien évidemment qu'il le donne à tous ceux qui veulent l'entendre, mais tout le monde n'est pas capable de l'entendre, tout le monde n'est pas capable de mettre en pratique, mais surtout, ça demande, sinon ça serait contraire à la doctrine même du Bouddha, pour entrer dans ce type de pratique, il y a des conditions. Puisque tout est conditionné, la pratique, elle aussi, est conditionnée. Et vous ne pouvez pas attendre d'une pratique, ce que je ne cesse de répéter, vous ne pouvez pas attendre d'une pratique ponctuelle, une fois de temps en temps, qu'elle permette d'obtenir les mêmes résultats que pour quelqu'un qui fait ça toute la journée, dans un environnement qui est le meilleur possible, en ayant travaillé sur sa discipline et sur son esprit par la discipline ou par d'autres types de méditation comme celle des jhanas, etc. Voilà, ce que je veux simplement dire, c'est que si vous voulez être... il faut que vous soyez conscient que vous n'obtiendrez comme résultat que dans la mesure que ce que vous avez permis comme résultat de se manifester. C'est pas parce que vous pratiquez sati ou les satipatthana sutta que dans n'importe quel moment ça va fonctionner comme ça. Ça dépend de ce que vous avez fait auparavant, de sur quel terrain vous plantez la chose. Hein. Voilà. Donc bien sûr ça s'adresse à tous dans l'absolu, mais l'absolu ça n'existe pas. Il n'y a que des cas singuliers. Sinon, on est en désaccord avec la doctrine du Bouddha, ce qui pose problème. Traditionnellement, une pratique de méditation, c'est un instructeur à un étudiant. Bon, bien sûr, le Bouddha, il nous enseigne, là, on nous dit qu'il enseigne à 500 bhikkhus. Historiquement, on sait bien que c'est pas vrai. À l'époque du Bouddha, il n'y avait pas autant de disciples. Historiquement, c'est absurde, c'est faux. Hein, c'est pas... Si on voit tous les textes les plus archaïques, ils nous présentent le Bouddha accompagné de quelques disciples, 5, 10. C'est pour ça que quand on veut ordonner un bhikkhu, il faut un minimum de 10 bhikkhus. 10. Et parfois, quand il n'y en a pas assez, 5. Ça nous donne une idée de ce que c'était que la communauté du Bouddha à l'époque du Bouddha. C'était des petits groupes de 5-10 personnes, avec un instructeur, un aîné, et puis les disciples autour. Il ne faut pas imaginer que les 500 ou 1000 disciples qu'on voit entourer le Bouddha, historiquement, sont véridiques. C'est absurde. C'est pas possible. Des monastères avec 1000 bhikkhus, ça c'est ce qu'on verra en Chine après, ou en Inde au 7e, 8e siècle, mais pas à l'époque du Bouddha. Mais de toute façon, encore une fois, dans ces monastères-là, vous avez quelques instructeurs qui ont quelques disciples. Et on s'adresse à des gens qui sont aptes à, et qui sont dans les conditions pour. L'enseignement de masse, c'est moderne. Hein.
Donc, on peut dire que le bouddhisme, c'est élitiste.
Alors, je ne veux pas employer le terme d'élitiste, parce que ça voudrait dire que c'est volontairement réservé à une petite. Non, comme dit monsieur, effectivement, c'est présenté à tous ceux qui veulent. Donc, j'invente l'expression de élitaire pour essayer d'atténuer ça en disant, voilà, c'est ouvert à tous. Mais il faut bien se rendre compte que ça n'est pas accessible à tous. Et là, vous avez beaucoup d'exemples dans la littérature bouddhique où le Bouddha refuse même d'enseigner à des personnes en disant, ça ne sert à rien que je leur parle, de toute façon, ils ne comprendront rien. Parce qu'ils ne sont pas dans les conditions pour m'entendre. Pas dans les conditions pour m'entendre. Il parle de ça notamment pour le roi Ajatasattu, qui a tué son père, il lui fait tout un enseignement, il lui dit, mais voilà, le pauvre homme, de toute façon, je lui ai fait tout cet enseignement-là, mais ça ne lui servira à rien, parce que il a tué son père, il est dans un état d'esprit tel que ça ne lui servira à rien. Mais il lui a quand même fait l'enseignement.
Il n'est pas devenu un bhikkhu ?
Ajatasattu ? Ah non, il n'est pas devenu un bhikkhu, non. Non, il s'est fait tuer par son fils. Il y en a trois de suite comme ça qui se sont tués, hein, le fils puis le père. C'est lui qui a commencé, il s'est tué, il a été tué par son fils, et son fils a été tué par son petit-fils.
Mais aujourd'hui, en Occident, un pratiquant laïque qui se dit bouddhiste, c'est quoi alors? La vidéo aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait...
Eh bien, vous allez voir dans les pagodes comment les Cambodgiens, les Laotiens, les Sri Lankais et autres considèrent, eux, qu'est-ce que c'est qu'une pratique d'un laïc qui vit dans le monde quand ils sont bouddhistes. Ben, c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Hein. J'ai fréquenté Cambodge sur Seine, Laos sur Seine et Vietnam sur Seine. Et je me suis rendu compte de ce que c'était que la pratique bouddhique. Il y en a qui font la méditation.
Non, aujourd'hui, les gens qui disent « je suis bouddhiste ».
Oui.
Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire « je pratique le don, les préceptes, je fais de la méditation ».
Exactement. C'est ça. C'est les dons, c'est les préceptes. Bien évidemment, on commence par ça. Et la méditation, il y en a quelques-uns. Quelques-uns. De temps en temps. Ou alors, ils rentrent dans le monastère pour un certain temps... Ou alors, fin de vie, etc. Bon, on sait bien qu'en fin de vie, c'est passé trop tard, mais ça fait pas de mal non plus. Ça permet de préparer la prochaine vie. Imaginez, reportez ça. Je reprends la question après. Imaginez, reportez votre, l'idée que vous faites du bouddhisme à l'idée de ce que vous avez du christianisme. La pratique de la méditation dans les monastères correspond aux pratiques de méditation dans les monastères chez les chrétiens. Si vous considérez que ceux qui fréquentent l'église le dimanche ne sont pas des chrétiens, vous éliminez du christianisme 98% des chrétiens. Des gens qui se considèrent totalement comme chrétiens, et que l'église chrétienne a toujours considéré comme chrétiens. Il n'y a pas que les trappistes et les carmélites et les chartreux qui sont chrétiens. Et pourtant, c'est les seuls qui pratiquent des exercices spirituels. Ce qu'est la pratique de la méditation dans le bouddhisme. Alors... Vous avez d'autres ordres, là j'ai cité les plus fermés dans le, du monde, mais vous avez d'autres ordres, les ordres jésuites, où il y a des laïcs qui pratiquent les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola. J'en connais un, il vient enseigner de temps en temps à l'IEB, c'est Paul Magnin. Voilà, vous avez dans le bouddhisme aussi des gens qui vont régulièrement dans des centres de retraite ou dans des monastères, traditionnellement c'était plutôt dans les monastères, maintenant c'est plutôt dans les centres de retraite, de méditation, et qui ont des périodes de vie, puis pratiquent ensuite chez eux. Mais ce n'est pas la majorité. Et on part du principe quand même dans la société asiatique que, avant de se lancer dans la méditation, on a assimilé les préceptes, on a assimilé toutes les pratiques de dons, etc. Eux, ils ont l'avantage, c'est que ça est transmis par la famille, c'est transmis par la culture, c'est transmis dans le pays, ce qui n'est pas notre cas. Mais c'est pas parce que ça n'est pas notre cas qu'il faut se priver de cette base. Au contraire, la première chose qu'il faudrait faire, c'est commencer par ça. La plupart des Occidentaux, ils ont voulu commencer, mettre la charrue avant les bœufs. Ils ont commencé par ce qui était normalement ce que l'on fait en dernier, quand on a fait tout le reste. C'est, moi, c'est ça qui me pose problème. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas fonder un monastère de moines de la forêt en France ? Parce qu'il n'y a personne qui se considère comme un upasaka de base, qui serait prêt à venir tous les jours pour offrir de la nourriture aux bhikkhus. Tous les gens veulent être des bhikkhus sans être bhikkhus. C'est bien joli, mais comment vous voulez faire un monastère si vous n'avez personne pour le faire marcher? Mais si personne n'a l'humilité de se considérer comme n'étant que, pour l'instant, un soutien à une communauté de bhikkhus. Faut arrêter de vouloir péter plus haut que son cul, quoi.
C'est uniquement sur la France, puisque par exemple...
C'est sur l'Occident, l'Occident en général. Après, quand vous regardez en Angleterre, voilà, le monastère d'Amaravati, il est soutenu par les communautés asiatiques.
Bien sûr, d'accord. Et
beaucoup plus que par la communauté occidentale.
Et par le prince Jacques, aussi.
En plus, bon.
Il y a quelques grands donateurs, mais Amaravati, quand on y va... ce ne sont que des Asiatiques qui viennent chaque jour apporter effectivement de la nourriture pour les moines.
Moi, j'ai été dans un monastère en Suisse, à Damapala, qui est près de Berne, de la tradition d'Alancha aussi, c'est pareil. J'étais censé faire la cuisine pendant la semaine, mais j'ai fait que 2 repas sur 7, parce qu'à chaque fois, il y avait une famille thaïlandaise, une famille laotienne qui venait et qui apportait tout le repas. Et c'est... Donc du coup, je cuisinais avec des légumes pourris. Parce qu'on ne devait pas les jeter, et donc l'anagarika de service m'obligeait à cuisiner avec les légumes qui commençaient à pourrir. Résultat, ceux qui étaient encore sains pourrissaient le lendemain. Mais bon.
Ça, c'est l'aspect économique du bouddhisme Theravada.
Et c'est l'aspect, oui, mais c'est très, très spécifique au bouddhisme Theravada, peut-être, oui. Cela dit, vous savez, en Chine ou au Tibet, les grands monastères, ils fonctionnaient parce qu'ils avaient des villages avec des esclaves, hein. et c'était des clans de nobles qui les faisaient vivre en leur donnant des villages, ce qui existait aussi dans le Theravada d'ailleurs. Je veux dire par là, ce système d'entretien des bhikkhus est nécessaire, puisque pour pratiquer correctement la méditation, il faut être sans préoccupation pour pouvoir s'égocentrer et démonter l'ego. Donc, pas se préoccuper de sa nourriture, pas se préoccuper de son habillement, pas se préoccuper de son logement, pas préoccuper de sa santé, le minimum nécessaire pour rester en vie. Voilà. Ça, c'est les conditions idéales pour pouvoir pratiquer correctement, de façon à obtenir les bons résultats. Et donc, qu'est-ce qu'au fond la plupart des Asiatiques? Ils considèrent qu'il y a des gens qui sont prêts à se lancer dans cette aventure-là, ils les soutiennent, parce que sans cette communauté de bhikkhus, ça ne leur permet pas, eux, sinon, d'avoir l'occasion de pratiquer aussi. S'il n'y a pas ces spécialistes, l'enseignement se perd. Et donc, eux-mêmes ne pourront pas parvenir à des états supérieurs s'il n'y a pas quelqu'un qui se spécialise, qui va plus loin qu'eux. Là, le problème, si vous voulez, en Occident, c'est qu'on veut tous pratiquer. Mais on ne veut pas qu'il y ait des spécialistes qu'on entretienne. Mais c'est ces spécialistes-là qui vont nous permettre de progresser. S'il n'y a pas ces spécialistes-là, comment est-ce que nous, on va progresser? Qui va nous dire où on en est? Si on est tous auto-référencés sur notre petite personne, on sera référencé sur notre samsara, puis c'est tout. C'est rien de plus. Donc là, je pense que la première qualité à développer en Occident, avant toutes celles qui sont liées au bouddhisme, ce serait l'humilité. Vous aviez une question?
Non, oui, je me demandais ce que vous pensiez de la vulgarisation de la méditation. Comment on voit maintenant, j'ai vu l'autre jour, par exemple, aux Folies Bergères, moyenne en 25 euros, il y avait un instructeur qui faisait de la méditation.
Oui. Tu parles de l'air sincère.
Non, là, c'est... ce n'est pas la vulgarisation de la méditation, c'est un emploi aberrant du mot méditation. C'est-à-dire que maintenant,
une méditation, en gros, oui, 25 euros, voilà.
J'avoue que j'ai du mal à ne pas me dispenser. J'ai du mal à ne pas à dispenser d'employer le mot, mais je voudrais ne plus jamais employer le mot de méditation. Il ne veut plus rien dire.
Voilà.
Donc, en bouddhisme, on parle de bhavana, développement de l'esprit, développement des qualités de l'esprit. Méditation, c'est un terme qui vient du christianisme. À l'origine, méditer, ça veut dire réfléchir avec approfondissement à quelque chose. Ça, c'est ce que fait un disciple du Bouddha quand il réfléchit sur l'enseignement. Donc un upasaka, celui qui vient au pied de l'enseignant, est un méditant au sens chrétien du terme. Il est là pour entendre les enseignements et les méditer, et en les méditant, les faire siens. Voilà. Donc un méditant dans le bouddhisme, ça devrait être réservé en fait à celui qui écoute et étudie l'enseignement. Après, le terme qui est employé dans les textes, c'est seka, celui qui s'entraîne, ou yogi, à la rigueur. On devrait parler de yogi, yoga, c'est ce qui est employé. Yogacara, c'est celui qui pratique le yoga. Ou celui qui fait donc du bhavana, qui développe les qualités de l'esprit. Mais on ne devrait jamais employer le terme de méditation dans le sens où on l'emploie aujourd'hui. Et maintenant, il s'est tellement vulgarisé que ça ne veut plus rien dire. Strictement plus rien dire. Hein? Parce que derrière le mot méditation, vous avez 25 significations différentes. Et donc, c'est comme c'est à la mode, tout le monde l'emploie, et tout le monde emploie à sa façon. Donc finalement, on ne sait plus ce qu'il veut dire. Donc nous n'allons pas méditer, nous allons nous entraîner, nous exercer à développer les qualités de l'esprit. Avec attention. De façon à reconnaître ce qui est profitable et bénéfique et éliminer ce qui n'est ni profitable ni bénéfique.
J'ai juste une question par rapport à la pratique. Le fait quand on est debout, enfin moi c'est, oui. Je découvre là depuis...
C'est le cas de posture.
D'accord.
On enseigne, on pratique normalement assis, debout, en marche, couché.
D'accord.
Bon, couché c'est plus difficile. Quoique, non, on ne s'endort pas. La posture est telle qu'on ne s'endort pas. C'est la posture du lion couché. Pas très confortable, mais ça prend beaucoup de place.